Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, une émission préparée par Fanny Richet, Virginie Leduo, Catherine Donnet et Marie Vidal, réalisée par Anne Franchini, accompagnée ce soir à la prise de son d'Élise Le. Des cartographies de Paris et de sa banlieue, il y en a eu un certain nombre depuis presque 50 ans de politique de la ville. Mais on a l'impression qu'aucune d'entre elles ne nous ont vraiment aidé à bien comprendre cet espace. L'une d'elles date de 1971 et dresse une liste des pathologies selon les communes autour de Paris, de l'angoisse à la dépression nerveuse en passant par la solitude ou la délinquance juvénile. Légende géographique et urbaine qui tourne autour de la Courneuve, de Sarcelles ou d'Épinay-sur-Seine. C'est une carte qui figure en première page d'un article de la sociologue Sylvie sur la spatialisation des problèmes sociaux ou comment on ne peut s'empêcher de ramener la banlieue à un lieu de vie supposé pour les plus exclus et les plus précaires. Carte d'autant plus obsolète depuis une trentaine d'années que certaines de ces banlieues sont devenues une sorte d'eldorado du pauvre propriétaire ou locataire. Les marchés bio, cafés branchés et boutiques de créateurs pourraient bien remplacer les pathologies que je viens de citer dans les cartes actuelles à venir de ces mêmes banlieues, mais ce serait peut-être simplifier un peu rapidement ce qu'il s'y passe. Depuis 10, 20, 30 ans selon les communes concernées, de jeunes ménages actifs mais pas assez riches pour un loyer parisien désertent les grandes villes et même ces quartiers populaires pour s'installer dans ces banlieues. Un phénomène de gentrification qui s'étend au-delà des frontières de la grande ville, rabat les cartes sociologiques de l'espace qu'il occupe et incite les élus à revoir sans cesse une politique de la ville qui se refuse à perdre de vue cet objectif ou utopie, c'est selon de la mixité sociale en milieu urbain. Surtout quand les habitants historiques de ces mêmes communes ne sont pas décidés à voir de nouveaux citadins et des augmentations de loyers arriver. Alors les banlieues, nouveau terrain ou dernier rempart à la gentrification, c'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Tissot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur au département de sciences politiques à l'Université Paris 8. Vos études portent sur les politiques urbaines et sur les espaces urbains et leur représentation, sur le phénomène de gentrification, à savoir l'appropriation d'un espace par un groupe de personnes plus aisées que ses habitants historiques. Sur le phénomène, on peut citer votre dernier ouvrage paru en 2011 aux éditions Raison d'agir. Il s'intitule « De bons voisins, enquête dans un quartier de la bourgeoisie progressiste » à partir d'une enquête que vous avez réalisé dans un quartier de Boston aux États-Unis et qui vient de paraître d'ailleurs aux États-Unis. Oui. Vous avez aussi travaillé sur la catégorisation des quartiers dits sensibles en banlieue parisienne, sur la notion de mixité sociale et sur les modes d'attribution des logements sociaux. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Avec vous pour discuter, Gaylord Lechecker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint au maire communiste de Montreuil en Seine-Saint-Denis, chargé de l'urbanisme, de l'aménagement durable, des grands projets et des espaces publics. Montreuil qui compte à peu près 103 000 habitants, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et qui fait l'objet depuis un an et jusqu'en 2019, si tout va bien, d'un programme de renouvellement urbain, ce qu'on appelle une OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat. Encore, nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail. En face de vous, une personne que vous connaissez peut-être, Gaylord Lechecker, il s'agit d'Agnès Pauline. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte au sein de l'Atelier 15. Je dis ça parce que la ville de Montreuil travaille en ce moment avec l'Atelier 15 sur un projet de construction de logements sociaux avec Montreuil. L'Atelier 15, c'est une société coopérative et participative, une SCOP d'urbaniste et d'architecte basée à Ivry-sur-Seine. Et vous vous associez avec des élus, mais aussi avec des sociologues, des coopératives d'habitants pour développer des projets de construction à dimension sociale et environnementale. Et notre dernière invitée, c'est Jamal Layane. Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes le porte-parole du collectif Ivry sans toit, toi T-O-I-T, un collectif d'Ivriens qui refuse le projet de renouvellement Ivry Confluence, un des plus importants d'Île-de-France, qui prévoit la mise en place d'un parc de 2,5 hectares de logements, 5600 logements, dont la moitié serait des logements sociaux.
Moitié en surface.
Il y a un an, vous étiez à peu près une soixantaine de propriétaires à vous mobiliser au sein du collectif. Vous êtes un peu plus aujourd'hui, on y reviendra dans un instant. Alors, ce sujet, nouveau terrain, dernier rempart, ça pose le problème en des termes plutôt relatifs à l'invasion, voire à la guerre. On se doute bien que ça ne va pas jusque-là. Même si l'arrivée de jeunes actifs dans les banlieues qui fuient les loyers parisiens et qui donc font monter les prix dans ces banlieues, ça génère inévitablement de l'inégalité et des tensions sociales. Alors, première question, sans doute la plus naïve que j'aurais à vous poser, comme ça ce sera fait. Qu'est-ce qui a manqué jusqu'à maintenant aux différentes politiques de la ville depuis la fin des années 70 pour apaiser ces tensions et répondre à cette exigence constante de mixité sociale ? Sylvie Tissot. Je serais un peu en peine de vous répondre, d'autant que je pense que l'objectif même de mixité sociale doit être questionné.
Exactement,
et que voilà, et que précisément cet objectif de mixité sociale, il est pas nouveau, et il n'est pas un antidote miracle à l'apaisement des tensions sociales. On sait depuis un certain nombre de travaux de sociologie urbaine que la proximité spatiale n'annule pas les inégalités sociales, parfois même elle les exacerbe. C'est ce qu'on a pu constater dans certains quartiers d'habitat social. Aujourd'hui, plus récemment dans des quartiers mixtes qui sont des quartiers en voie de gentrification ou gentrifiés. Pour revenir à votre question, ce qui manque à ces politiques du logement, c'est une question très vaste, mais j'ai envie de dire peut-être poser la question, peut-être non pas tant en termes de mélange dans des espaces urbains, mais en termes d'inégalités sociales, comment ces inégalités sociales se réfractent dans l'espace, mais comment peut-être en amont aussi de la gestion des espaces, travailler ou lutter contre ces inégalités sociales.
Vous, Gaylord Lechecker, ça fait un an et demi que le maire Patrice Bessac a été élu et que vous êtes en charge de l'urbanisme et des grands projets. Là, depuis un an, le Bas-Montreuil est sujet à ce qu'on appelle une OPA, donc je disais, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui a pour but de réhabiliter des logements, un peu plus de 500 logements, c'est ça ?
C'est bien ça.
Comment se sont déroulées les concertations ? Quelles questions de base vous vous êtes posées en tant qu'adjoint à ces grands projets pour définir cette opération ?
Alors tout d'abord, peut-être par rapport à la question que vous posiez précédemment sur ce qui pourrait manquer par rapport à tout cela, moi je pense que c'est la question d'une ambition partagée. Un certain nombre de collectivités se retrouvent trop fréquemment assez isolés dans leur ambition d'essayer de maîtriser ou de contenir ce phénomène de gentrification. Travailler sur la mixité sociale, ça ne peut pas être l'objet d'une seule politique de la ville. Ça ne peut pas être que l'objet et que l'ambition de la ville de Montreuil. Il faut bien que ce soit quelque chose de partagé par l'ensemble des élus. Je note d'ailleurs que ces dernières années, sous l'impulsion notamment de Yann Brossat à Paris, ce phénomène de gentrification dont Paris est d'ailleurs à l'origine, puisque c'est bien l'envolée des prix sur le secteur de Paris qui a poussé un certain nombre de populations à aller rechercher une sorte d'Eldorado, à la fois pour y vivre mais aussi pour y travailler. On voit bien qu'à Montreuil, les populations que nous accueillons, pour la plupart, contrairement à l'idée reçue, et d'ailleurs toutes les études l'ont montré, ce ne sont pas ces bobos très riches qu'on veut bien imaginer. Le plus souvent, ce sont des artistes, des architectes, des gens qui démarrent dans la vie et qui ont besoin de trouver à la fois un lieu et pour vivre et pour travailler. Et il s'avère que à Montreuil, on est une terre d'accueil. On essaye de favoriser justement l'arrivée de ces populations sans faire fuir celles qui y vivent et qui ont vocation à y rester. Mais le fait que vous invitiez un adjoint d'une ville communiste de l'Est parisien est d'ailleurs assez révélateur. C'est-à-dire que la question de la gentrification ne se pose pas du tout sur l'Ouest parisien. À Neuilly, ils ont réglé les choses différemment.
Encore
ils ont
moins d'ailleurs
choisi
maintenant
leur population.
Que sur l'Est parisien d'ailleurs.
Complètement. Ils ont choisi leur population. Ils font venir une population riche, assumée comme telle, avec des loyers absolument pas maîtrisés dans leur prix de sortie. Vous êtes à certains endroits à quasiment 8000 euros le mètre carré, alors qu'à Montreuil, on travaille pour essayer de contenir cette pression sur les loyers. Par rapport à la question que vous évoquiez, la question de l'évolution du bas Montreuil et de sa gentrification n'est pas un phénomène nouveau. Ça a commencé dès les années 80 avec la crise industrielle, avec énormément de friches qui ont été libérées, des friches d'anciennes entreprises, des scieries à bois, des magasins de porcelaine. Et ces lieux sont aujourd'hui des lieux quelque part de convoitise. Tout l'enjeu pour nous, c'est à la fois d'accompagner l'évolution de ce territoire sans faire la table rase de ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que vous avez des populations qui vivent souvent dans des conditions indignes, avec des situations d'exposition au plomb, avec des situations de mal logement. Et donc dans le programme qui se met en place avec un aménageur public, la Soreca, en lien avec la communauté d'agglo Est Ensemble, tout l'objectif c'est de fixer ces populations par un projet de renouvellement, c'est on reconstruit la ville sur elle-même. Et donc c'est une ambition assez forte et nous allons rentrer dans une phase opérationnelle. Et la question que vous posez sur la concertation avec les habitants, on est en plein dedans. C'est-à-dire que toutes les fiches de l'eau, ce qu'on appelle les fiches de l'eau, la façon dont on imagine la ville, petit pâté d'immeuble par petit pâté d'immeuble, est en train de se discuter avec nos populations en ce moment.
Justement, en ce qui concerne la concertation avec les habitants, Agnès Pauline, qui est avec nous, me disait, pour préparer cet entretien, qu'il y avait des coopératives d'habitants à Montreuil, c'est ça ? Avec qui vous êtes en discussion ? Au sein de l'atelier 15 ?
Ouais, au sein de l'atelier 15, on a plutôt les coopératives sur lesquelles on est vraiment déjà parti. C'est plutôt sur le territoire d'Ivry, où on a deux coopératives, enfin trois coopératives d'habitants maintenant, qui sont formées en statut en S3CV, Société Coopérative Civile de Construction et Vente. Et puis une coopérative sur la ville de Vitry, là qui est adossée à un opérateur social, donc du coup qui va s'intéresser en fait à venir chercher des populations qui sont dans les quartiers et qui assurera pour eux le portage financier de l'opération. Donc qui sécurise en fait des gens qui n'ont pas le patrimoine toujours culturel nécessaire pour mener à bien des opérations de ce type de logement. Sur la ville de Montreuil, on a en fait une coopérative d'habitants qui nous a sollicité pour les accompagner. Donc là, elles sont en discussion avec la ville sur des opportunités foncières. Et on travaille toujours avec le même opérateur social Copimo, qui est une société coopérative d'HLM, qui là travaille en fait avec Gaylord Le Shaker sur deux types de terrains avec deux propositions différentes. Une en mettant pour les habitants la possibilité de faire de la location-accession qui permet à des gens qui ont des moyens plus faibles de ne pas cumuler des remboursements d'emprunt et des loyers. Donc ils ne vont payer leur logement que quand ils seront entrés dans les lieux. Et c'est la coopérative d'HLM qui chargera la trésorerie de la construction. Et puis l'autre où il y a une réflexion sur la dissociation du foncier et du bâti, qui permet en fait à des gens de se concentrer sur la construction de leur logement, donc les frais, les coûts de construction, alors que l'achat du foncier va être porté pendant 20 ans par l'établissement public foncier de la région Île-de-France, et ce qui leur permettra, au terme des 20 ans, d'acquérir le terrain. Donc entre-temps, ils auront loué très peu cher le terrain, et ça permet un petit peu de donner un peu d'air à la trésorerie qu'il faut pour construire.
Sur cette question de la concertation, Jamal Layane, depuis la création de votre collectif Ivry sans toi, Ivry-sur-Seine a changé de maire. Pierre Gosnat est décédé en janvier dernier. C'est son adjoint Philippe Bouissou qui est devenu maire à sa place. Où en sont les discussions à propos d'Ivry Confluence aujourd'hui, qui est un projet dont vous et d'autres habitants d'Ivry-sur-Seine ne veulent pas?
Alors, si vous le permettez, je vais commencer par pas répondre à la question, parce que nous, au titre d'Ivry sans toi, on s'est créé pour une raison simple, c'est que le dispositif qui était mis en place est exactement le contraire de ce qui a été présenté par l'adjoint maire de Montreuil, c'est-à-dire un dispositif brutal qui nous fait confronter de manière directe à ce qu'on appelle la logique capitaliste. On ne s'est pas créé parce qu'on contestait le fait qu'il y a des logements indignes, on ne s'est pas créé contre la gentrification, par contre on s'est créé contre l'évacuation. Parce que ce projet-là, il était là en disant, voilà, nous, communistes, on est dépositeurs de l'intérêt général. Au nom de cet intérêt général, on a mis en place un dispositif qui va vous faire évacuer de la ville. Et tout le reste, la concertation, le malentendu, le logement indigne, la maîtrise du prix de sortie, c'est la façade de la rénovation urbaine.
C'est-à-dire qu'on ne vous a pas fait de propositions concrètes ?
On nous a fait des propositions indignes. Voilà.
Lesquelles, par exemple ?
Ben, c'est de dire qu'on vous donne une indemnité équivalent à une cave en vous disant ben, peut-être que votre logement il équivaut à une cave. Enfin, je sais pas, moi, c'est de dire vous êtes des profiteurs de la situation. Vous êtes assis sur une mine d'or ou vous êtes des propriétaires indélicats, comme a dit monsieur le maire lors de sa prise en fonction. Donc, on va dire de statut de personnes concernées où la ville, lors d'un projet d'aménagement, est censée nous défendre. On est passé au statut de coupable qu'une ville attaque pour des intérêts financiers. C'est pour ça que moi, je suis un peu gêné sur les discussions. D'ailleurs, entre parenthèses, sur le mot mixité sociale, je vous avoue que j'ai plus envie de l'entendre.
Alors, c'est un mot que j'utilisais à dessein, justement, parce que
insupportable.
Sylvie Tissot, justement.
C'est tellement.
C'est un mot galvaudé, je suis bien d'accord avec vous.
Voilà. Concertation, en tout cas au titre d'Ivry sans toi, hors sujet. Et puis, discours d'élu, façade. Donc, je vous dirais, moi, au titre d'Ivry sans toi. Au moins dans un projet d'aménagement, commençons par les questions qui fâchent, qui est de dire est-ce qu'il y a une logique capitaliste qui la représente ? Est-ce que c'est réellement le monde capitaliste tout seul ou est-ce que la ville, dans le sujet c'était Fresnes, est-ce que c'est un rempart
est-ce
contre...
Est-ce que c'est un rempart ? Est-ce que les banlieues sont sont le dernier rempart à la gentrification ?
Incapable de répondre, ce que je peux vous dire c'est que c'est un terrain de gentrification avec des élus qui n'ont pas la Fresnes mais sont complices de la gentrification parce que quelque part, ils doivent y trouver un intérêt.
Voilà. Si vous me permettez, parce que ce que dit Monsieur Layane est très important. Le phénomène que l'on est en train de vivre, en tous les cas, je prends l'exemple de Montreuil, c'est que contrairement à l'idée reçue, nos villes, notamment Montreuil, ont une encore capacité d'évolution très importante. Et notamment les promoteurs l'ont tout à fait compris. Moi, je le vois dans les rendez-vous que j'ai quotidiennement en mairie. Chaque site, chaque parcelle, chaque site industriel est l'objet d'une convoitise. Donc la question qui est posée à nous élus, c'est celle de savoir, est-ce que nous nous mettons en accompagnateur de cette spéculation? Un certain nombre de villes que j'ai pu citer tout à l'heure ont pu le faire en laissant partir un urbanisme avec des envolées de prix complètement irraisonnables. Ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'établir un rapport de force qui est complexe, qui ne peut pas être uniquement traité à l'échelle d'une ville? Et par exemple, la question de la construction métropolitaine dans ce cadre-là est un vrai enjeu. Et par exemple, moi, il y a un sujet qui me pose vraiment problème. Parce qu'on parle aujourd'hui de la gentrification et donc de ce phénomène d'exclusion, c'est-à-dire de population qui, au fur et à mesure, que ce soit à Paris, que ce soit maintenant dans la première couronne, sont amenés à devoir bouger parce que la vie est trop chère. Moi, il y a un certain nombre de villes en Île-de-France qui, à ce jour, ne respectent pas leurs obligations pour faire en sorte qu'il y ait, à l'échelle de l'Île-de-France, une offre de logement peu chère qui permette à chacun de pouvoir se loger décemment. Je pense à la question de l'application de ce qu'on appelle la loi SRU qui oblige les villes à produire au minimum 20% de logements sociaux. Quand je pense qu'à Montreuil notamment, on est sur environ 37-38% de logements sociaux, même si on a un gros travail à faire pour les logements très sociaux, où là, il faut qu'on rattrape le retard accumulé. Mais vous avez un certain nombre de villes d'Île-de-France qui se sont mis volontairement hors la loi, qui ne respectent pas cela et qui renvoient aux autres tout le débat que nous sommes en train d'avoir. Quand je vois sur la question que pose à juste titre M. Layane, sur la question des prix de sortie, pourquoi dans des villes comme Montreuil, malgré la pression, on arrive à contenir un certain nombre de prix aux alentours, la fourchette, selon l'indice fourni par la Chambre des notaires, aux alentours de 4 100 € par mètre carré. Alors que de l'autre côté, vous avez des villes qui sont à plus de 8 000, 7 000 € le mètre carré. À Ivry, je crois, on doit être pas loin de la même chose, aux alentours de 3 500 ou 4 000 €. Pourquoi un certain nombre de villes, notamment de tradition communiste, ont pu faire ce travail-là et d'autres ont laissé s'échapper volontairement cette situation? Et aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où on doit gérer cette dichotomie dans la relation que nous avons avec nos villes voisines.
Sylvie Tissot, je vous voyais réagir à l'instant à ce que disait Gaylord Lechaker, l'adjoint à la mairie de Montreuil, au grand projet.
Peut-être qu'il faut complexifier un peu cette vision dichotomique, justement, pour reprendre ce terme-là, entre les villes de l'Est, les villes de l'Ouest, entre les logiques du capitalisme et celles des villes communistes. Parce que, pour revenir un petit peu en amont, et l'attitude notamment d'un certain nombre de villes, notamment la ville de Montreuil, notamment qu'elle a été gérée par Jean-Pierre Brard, qui a eu une attitude ambivalente, qui s'est quand même, dans les années 80 et 90, appuyée sur ces nouveaux habitants, hein, donc sur ces gentrifieurs de la première génération, pour gérer aussi un tournant politique quand même de grande ampleur, qui n'est pas que propre à Montreuil et qui est plus large que ça, qui reflète aussi une certaine vision des politiques urbaines, une certaine vision des quartiers d'habitat social, une certaine vision des classes populaires, et où s'est substitué quand même un discours qui était celui du communisme municipal, dont il faut bien sûr faire le bilan, mais qui était un discours quand même de promotion des classes populaires au logement moderne, hein, via le logement social, avec tout ce qu'on peut effectivement discuter. Donc un discours qui a été bien très fortement invisibilisé au profit d'un discours qu'on a vu apparaître là, hein, dans ces communes, pas seulement, mais aussi dans ces communes, d'un autre modèle de vie en ville qui s'est construit contre celui des grands ensembles, contre celui de l'idée que les classes populaires logées dans ces grands ensembles étaient de fait promues, était de fait bénéficiait d'un logement décent, ce qui était marqué une rupture fondamentale avec les conditions des classes populaires et de leur situation dans le logement. Et cette rupture, elle a conduit aussi au développement d'un modèle de vie en ville qui s'est construit sur ce mythe du quartier-village, sur cette idée de quartier mixte, dense, riche de leurs petits commerces, anciens, etc., et qui de fait pose un problème parce qu'il entretient quand même une relation très étroite avec la stigmatisation des grands ensembles et la stigmatisation de ce qu'on appelle les banlieues. Donc je crois qu'il faut aller au-delà de, je pense qu'il y a un effort louable de dire on accueille tout le monde et en même temps on n'oublie pas les classes populaires, mais quand on revient un petit peu en amont dans l'histoire, il faut quand même s'interroger aussi sur ce qui rend possible la gentrification, qui est pas seulement qui sont les logiques du capitalisme, il faut le souligner, des logiques de politique publique nationale et locale, mais aussi la manière dont ces individus s'approprient un territoire, et Anaïs Collet l'a vraiment très très bien montré, en montrant comment s'invente un nouveau modèle à distance à la fois des cités. Hein, on voit ces gentrifieurs arriver et dire « Ouh, moi, j'habite surtout pas près des cités. J'habite surtout pas dans des petits pavillons, parce que le pavillonnaire, c'est des beaufs qui votent au national. Mais j'habite dans un quartier qui est finalement un petit peu comme un quartier de centre-ville, un petit peu comme Ménilmontant, là où je ne peux, de fait, plus habiter. » Donc, je crois qu'il faut s'interroger aussi sur un discours qui est aussi une certaine représentation des classes sociales et des espaces urbains.
Avant de vous laisser poursuivre, Galerne Le Shaker, vous citiez Anaïs Collet, donc votre consoeur sociologue qui a travaillé sur le bas Montreuil, qui en a publié un livre, Rester bourgeois. Déjà à Paris, une autre sociologue, Anne Clerval, critiquait la politique de la mairie de Paris, oui, qui a certes favorisé le nombre de logements sociaux dans les quartiers populaires, mais avec des loyers qui restent inaccessibles aux populations les plus précaires. Vous, Sylvie Tissot, vous avez notamment écrit deux articles sur le mode d'attribution discriminatoire des logements sociaux en 2006. Oui. Et vous avez notamment enquêté à Montreuil. Oui. Vous dites que la charte communale du logement signée en 1997 à Montreuil met en évidence des tensions entre la mairie, la préfecture et les bailleurs. Il y a des objectifs contradictoires qui sont de mettre en relation avec l'ensemble des bailleurs toute personne à ressources modestes et en même temps la mixité sociale des quartiers sensible sera favorisée par une arrivée de ménages sociologiquement diversifiés. Là, en plus, le vocabulaire est un petit peu opaque. C'est une question aussi de vocabulaire.
Bien sûr, c'est une question de vocabulaire, mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette enquête sur les attributions de logement social, c'est de regarder ce qu'on fait précisément avec un mot. Hein, parce que cette notion de mixité sociale, elle a plusieurs fonctions. Elle a souvent une fonction de brouillage, notamment de brouillage idéologique, hein, c'est ce que je disais au départ. Et puis elle a quand même des fonctions plus concrètes, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans un organisme de logement social ou dans une commission d'attribution de logement social, dans une mairie, quand on dit on veut plus de mixité sociale dans un immeuble, on veut plus de mixité sociale dans un quartier, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense? Et qu'est-ce qu'on fait ?
On peut se demander à qui s'adressent vraiment les politiques de la ville, en termes de vocabulaire parfois.
Bien sûr, et cette notion de mixité sociale est souvent entendue comme mixité ethnique. Et là, il faut regarder aussi par rapport à quoi les termes s'opposent. Et je crois que la notion de mixité sociale, elle a pris aussi, elle s'est substituée à un autre mot d'ordre, il me semble, qui doit être reposé, c'est la question aussi du droit. La question du droit au logement. Et quand on dit on veut plus de mixité sociale dans un quartier, on dit aussi on veut moins de... C'est-à-dire, on peut le dire en positif, on dit on veut plus de gens différents, ceux qui sont les bons, la bonne mixité sociale, mais on dit aussi en creux ce qu'on ne veut pas, ceux dont on ne veut pas ou ceux dont on veut en une moindre proportion. Et quand on dit mixité sociale, souvent on pense mixité ethnique, et il y a quand même un pas qui est souvent franchi entre l'idée qu'il faudrait plus de mixité sociale et la pratique qui correspond à chercher à avoir moins de pauvres et ou moins de populations immigrées ou non blanches.
Quel ordre de chacun ?
Oui, parce que ce que dit Sylvie Tissot est important. Et moi, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler, même si le terme ne nous plaît pas forcément, de la question de la mixité sociale. D'autres ont réglé cette question-là. Ils sont dans une approche de ghettoisation. La ghettoisation de riches ou la ghettoisation de pauvres. Ce qui a été dit tout à l'heure sur l'urbanisme des années 70, heureusement que nous sommes en train d'en sortir. Heureusement. Et quand on dit aujourd'hui que nous voulons faire du logement social et qu'à Montreuil nous voulons faire du logement social, l'exemple qui a été pris à l'instant par Agnès sur les opérations nouvelles en matière d'urbanisme, des COP HLM qui peuvent exister, d'habitat participatif avec du logement social, montre bien que heureusement qu'on n'est pas dans ce système qui est de concentrer dans un même lieu l'ensemble des problématiques. Ce que je veux dire, c'est quand je revenais sur l'histoire de la loi, sur la loi SRU, les 20% de logements sociaux, si aujourd'hui des villes comme Montreuil vont bien au-delà de ce que la loi impose, il est quand même grand temps que les pouvoirs publics, que le gouvernement, quel qu'il soit, disent à un moment, on siffle la fin de la récréation et qu'il est anormal que certains se dédouanent de leurs responsabilités et que nous soyons là à devoir débattre de savoir comment, et vous avez utilisé, Madame Tissot, un terme, je ne sais pas si on s'appuie sur les populations. Il y a un mouvement qui est là. Pendant des années, Paris a poussé en dehors de ses frontières un certain nombre et une certaine catégorie de population chassée parce que les loyers étaient trop chers. À Montreuil, on va pas ériger.
Ce qui risque peut-être de changer avec le décret de la loi Allure qui impose un plafonnement des
loyers. Alors, il faut qu'il soit appliqué. Mais à Montreuil, on va pas ériger des frontières. On est une ville accueillante, on l'a montré au travers de notre histoire. Tout l'enjeu que l'on a, effectivement, c'est comment on crée les conditions d'être en capacité d'accueillir ces populations, et on n'est pas dans une vision exotique. C'est on les accueille, on crée les façons de vivre ensemble, y compris sur des questions d'aménagement et d'urbanisme. Vous savez, le maire a souhaité que j'aie y compris la délégation des espaces publics, parce qu'on se rend compte que, y compris par le traitement de nos espaces publics, on peut avancer sur ces choses-là. Sur la question de la mixité, et je m'arrête là, à Montreuil, 7861 demandeurs de logement. Si on ajoute les demandes de décohabitation, par exemple, liées aux personnes qui sont dans le parc HLM de la ville, 9000 personnes. Nombre de logements attribués à ce jour sur l'année 2014, c'est-à-dire le roulement effectif, les logements que nous pouvons attribuer, 800 logements. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas en continuant de cette manière-là qu'on arrivera à résoudre cette problématique.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Pour poursuivre encore un instant sur la question des logements sociaux, Agnès Pauline, de l'atelier 15, vous m'aviez parlé de mesures antispéculatives qui étaient mises en place ou qui allaient être mises en place à Montreuil.
Sur Ivry, donc les coopératives d'Ivry, en fait... elles ont pu voir le jour parce qu'il y a eu un investissement de la mairie qui a cédé le foncier avec un taux avantageux en contrepartie d'ouvrir la coopérative d'habitants et de faire une sente publique qui traverse le terrain et qui permet de relier la plaine fluviale au plateau. Donc les coopérateurs en fait ont clairement indiqué dans les statuts de leur société que ayant bénéficié d'une aide de la municipalité pour l'acquisition du terrain, le principe c'était de pas de faire une logique de spéculation foncière et 10 ans après de revendre leur bâti en ayant fait une culbute financière. Donc ils se sont mis des clauses spécifiques pour ne pas revendre à n'importe quelle condition en associant en fait le coût de leur logement au taux de la construction en fait, et également comme ils bénéficient en fait d'une proximité d'un quartier en rue, ils ont une TVA réduite, donc en cas de revente de leur logement avant 15 ans, maintenant c'est passé à 10 ans mais au moment où la coopérative a vu le jour c'était 15 ans, ils doivent reverser le delta avec une TVA classique s'ils revendent leur logement. Donc ils ont mis un certain nombre de règles comme ça. Également, la coopérative d'habitants a un droit de priorité dans l'achat du logement qui sera remis en vente par un coopérateur pour permettre de le refaire bénéficier un petit peu aux futurs acquéreurs qui devraient avoir les mêmes conditions sociales en fait que les premiers acquérants.
Donc, puisque ces mesures n'ont pas été prises à Montreuil, est-ce que ce sont des mesures qui vous parlent, qui vous inspirent pour de prochaines mises en place, de prochaines mesures
oui.
mettre en place, Gaylord
enfin, Lechecker qui existent déjà, mais de longue date. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a traversé les temps et les mandats et les maires. La question notamment de la création d'habitats participatifs. Les premières expériences remontent à notre histoire des prêtres ouvriers à Montreuil. Puisqu'on a une résidence dans le quartier Le Morillon, que tout le monde appelle les Castors, a été construite à l'initiative des prêtres ouvriers de Montreuil, sous la forme de coopératives d'habitat participatif. Ils ont été un peu les précurseurs. Et aujourd'hui encore, on a évoqué effectivement une opération pour laquelle effectivement le collectif représenté par Agnès Pauline a été choisi par les Montreuillois qui sont constitués en petits groupes. Et alors là aussi, il faut casser les fantasmes. Ce sont des ménages que moi je connais, qui sont plutôt classe moyenne, qui avaient un projet de vie et ils se sont regroupés à 3 familles montreuilloises plus 2 autres qui viennent d'autres villes pour monter cette opération. Donc ils ont fait une démarche en la direction de la mairie pour savoir si il était possible de trouver du foncier pour pouvoir développer cette opération. Et une autre assez récente qui a eu lieu est tout à fait intéressante à proximité d'un quartier populaire, le quartier de Lanoux, Vous avez une réalisation d'habitat participatif avec une partie sociale, c'est-à-dire que on a contractualisé avec un bailleur qui nous accompagne et deux logements sont réservés pour des familles en grande difficulté. Donc c'est avec Habitat Humanisme que ça se mène. Donc, et ce sont des opérations, ça marche.
Agnès Pauline, je vous en prie. Pardon.
Juste sur la taille, en fait, la stigmatisation des grands ensembles. C'est vrai que maintenant, je pense qu'il y a quand même plus une promotion d'opérations de taille plus petite et qui permet aussi une meilleure acceptation des différences dans les quartiers, un meilleur échange. Dans ce cadre, en fait, on peut voir une manière un petit peu différente de s'investir. Et
je ne suis pas sûre que ce soit non plus la panacée. Enfin, c'est une discussion ouverte, mais il me semble que justement, ces projets plus réduits qu'on promeut aujourd'hui à travers les politiques de rénovation urbaine, hein, les politiques de démolition, sont justement montrés en exemple. Et ça s'accompagne quand même de la démolition de tours et de bars qui sont du logement populaire, il faut le rappeler, qui accueillent des
qui
classes populaires,
qui
accueillent souvent des familles immigrées, parce que c'est souvent des grands appartements. Ces tours et ces bars qui sont aujourd'hui démolis, avec l'idée, quand on voit dans la réalité qui n'est pas réalisée, qu'on va reconstruire en même nombre et de la même manière, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'on construit effectivement des projets de taille beaucoup plus réduite, qui sont beaucoup plus chers. On ne construit pas autant. Alors maintenant, on commence à le savoir. Il y a des études, quand même des bilans qui sont faits de ces politiques de démolition qui montrent qu'on ne construit pas autant qu'on démolit. Et que cette politique de démolition, pour revenir aussi à des aspects de représentation, mais qui sont quand même très très importants, ces politiques de démolition, elles véhiculent quand même l'idée qu'il faut se débarrasser de ces grands ensembles. Et entre se débarrasser de ces grands ensembles et de se débarrasser de la population qui y vit, vous voyez, il y a quand même des associations d'idées qui peuvent vite se faire. Donc ça, je pense que c'est
renouvellement urbain égale renouvellement de population pour vous, Sylvie Tissot, à terme.
C'est même pas à terme, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, avec, là, il y a des travaux très intéressants, notamment le travail de Pierre Gilbert qui l'a bien montré, hein, les opérations de démolition ou les opérations de démolition urbaine telles qu'elles sont aujourd'hui menées, qui sont menées au nom de la mixité sociale, elles ont souvent un effet qui n'est pas celui-là. C'est-à-dire que on essaye de reconstruire des lieux, hein, des mini-quartiers où on va attirer en gros les classes populaires stables, celles dont on estime qu'elles forment en fait la bonne mixité sociale, qui vont être des bons voisins entre guillemets, et les classes populaires, puisque c'est ça aujourd'hui, hein, la population dans les grands ensembles, elle n'est pas homogène, hein, ça, y a une grande fracture entre les classes populaires les plus précarisées, les classes populaires stables, et les classes populaires souvent immigrées ou non blanches, les moins stables, eh bien on les relègue souvent dans les fractions les plus paupérisées du parc social. Donc c'est aussi ces politiques, à mon avis, qu'il faut aussi questionner et qu'il faut questionner. Du coup, ça m'amène à rebondir sur ce que vous disiez, hein, sur ce langage du il faut pas de ghetto, il faut casser les ghettos. Évidemment, qui est pour les ghettos, hein, personne, hein, c'est comme la mixité sociale, tout le monde est pour la mixité sociale. Mais je m'interroge quand même sur ce discours, parce que et pour revenir sur la stigmatisation des grands ensembles, aujourd'hui, c'est quand même le parc social et le lieu d'accueil, notamment des primo-arrivants, notamment des classes populaires les plus pauvres, qu'elles forment une étape dans des trajectoires résidentielles qui peuvent après évoluer vers d'autres formes d'habitat. Donc il me semble qu'il faut aussi, et pour revenir à la gentrification, il me semble que les deux sont liés aussi, il me semble qu'il faut aussi réfléchir au discours et au regard qu'on porte sur les quartiers d'habitat social.
Alors, vous avez presque introduit le son qui va suivre. J'aimerais vous faire écouter, avant qu'on poursuive, un extrait du journal de France 3. Nous sommes en février 1989. C'est un reportage de Dominique Rotival et Clément Seguel sur le projet de renouvellement urbain dans le quartier de l'Ormesol à La Courneuve.
Implosion de la barre de Bussy à La Courneuve, c'était le 18 février 86. Elle mesurait 185 mètres de long, véritable obstacle entre la cité des 4000 et la ville de La Courneuve. Aujourd'hui, face à l'espace libéré, le nouveau quartier de l'Ormesol, à proximité de la future gare. L'esprit de la réhabilitation peut se résumer ainsi, casser le ghetto, mais sans renier l'histoire de la cité.
Les gens sont très attachés à leur habitat. La meilleure preuve, c'est que lorsque nous avons démoli la grande barre de Bussy, il était au départ projeté de démolir la petite barre. Les habitants s'y sont opposés et il y a eu une concertation très très forte.
Sur les 307 appartements, une quarantaine a été supprimée pour ouvrir de véritables fenêtres sur la ville. La transformation de la barre Balzac revient à 55 millions de francs. En 92, la réhabilitation de la cité des 4000 devrait être terminée. Coût total, 535 millions de francs. Question ? Les enfants des familles d'origine qui veulent rester à La Courneuve pourront-ils assumer l'augmentation des loyers ?
Alors il y a une phrase intéressante dans ce reportage, c'est la manière dont la journaliste définit ce projet de réhabilitation, casser le ghetto mais sans renier l'histoire de la cité. Casser le ghetto, c'est une ligne affichée un peu permanente, intemporelle de la politique de la ville dans les banlieues. Il y a même eu des lois anti-ghetto votées en 1991 après les émeutes de Vaux-en-Velin. On essaie de répondre au malaise social par une nouvelle politique de la ville, Sylvie Tissot ?
Il me semble qu'on est toujours dans cette idée de traiter les problèmes sociaux par une action sur l'espace, en tout cas sur la distribution des populations dans l'espace, alors qui est en même temps le vieux rêve des urbanistes et des architectes, et je pense qu'il y a évidemment un élément intéressant là-dedans, mais casser les ghettos, là encore, véhicule, il me semble, l'idée qu'on va résoudre les questions sociales qui, il est important là aussi de questionner les problèmes de vocabulaire, qui ne se réduit pas à un malaise. Je crois qu'il y a une vision psychologisante aussi de la question sociale dont il faut se débarrasser. La question sociale, c'est des questions d'inégalité sociale et économique. Véhicule donc l'idée qu'en cassant les ghettos, c'est-à-dire qu'en répartissant mieux, de façon plus équilibrée, les populations dans l'espace, eh bien, on s'attaquerait à la question sociale. Et donc on spatialise, on spatialise le traitement de la question sociale. Et je crois que s'en tenir à cette idée-là, ou ne pas la questionner, va laisser largement inchangé, où il me semble que les problèmes vont très largement demeurer en l'état.
Gaëlle de Schaecker, le texte de la Convention de l'opération d'amélioration de l'habitat commence par énumérer les échecs de la politique de la ville menée depuis quasiment 30 ans dans ces quartiers. Il y a eu trois opérations similaires menées depuis 1984 jusqu'à maintenant, avec des résultats jugés, je cite, insuffisants. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ces 30 dernières années ?
Tout d'abord, moi je me méfie toujours sur la question de la politique de la ville, quand vous regardez sur les 30 dernières années, voilà, y a tout un discours qui évolue, alors à chaque fois on cherche, mais on est en train de parler de la vie quotidienne des gens, tout simplement, dans leur environnement. Moi ce qui me frappe, on est en train de travailler sur un projet de renouvellement urbain sur le quartier de Lanoux, est en train de s'achever celui du quartier du Bel Air, engagé au début des années 2000, quand on a poser les premiers coups de crayon sur la réhabilitation du quartier du Bel Air. Et aujourd'hui, on est à la pose de la dernière pierre, de la dernière opération immobilière qui sera la réalisation d'une résidence pour personnes âgées dans ce secteur-là. On a eu le droit pendant tout ce temps-là à tous les discours et à toutes les théories possibles et imaginables. Mais par contre, il y a une réalité. C'est qu'il y a eu une dégradation du cadre de vie des habitants de ces grands ensembles qui est inimaginable et inacceptable. Ce matin, on accueillait le préfet de la Seine-Saint-Denis, à Lanoux, qui venait voir ce secteur, qui fait l'objet d'un projet de renouvellement urbain dans le cadre de ce qu'on appelle l'ANRU 2, qui va nous permettre, on l'espère, de pouvoir bénéficier de ressources financières et techniques pour pouvoir mener à bien cette opération, avec de la démolition de parkings sur dalles. Et ce qui nous a le plus marqué, c'est quoi ? L'abandon et la disparition des services publics dans ces grands ensembles. La disparition progressive d'une offre commerciale. Et donc, du coup, le sentiment avéré pour les habitants d'être complètement abandonné par les pouvoirs publics. Et tant qu'on ne traite pas la question du renouvellement urbain aussi par ce biais-là, on se plante. Et là où je suis d'accord avec ce que disait Sylvie Tissot tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de l'abandon social. Si dans nos politiques de la ville, on abandonne cette dimension-là, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était toujours à parler du renouvellement urbain. On oubliait la dimension sociale. Aujourd'hui, il y a un peu un inversement de la situation. Et je vois, par exemple, ce qui est en train de se réaliser sur le quartier du Bel Air. On arrive, alors Sylvie Tissot a raison, vous avez des populations qui ont le sentiment que ces opérations nouvelles qui arrivent sont potentiellement trop belles pour elles pour être accessibles. Et donc la question du parcours résidentiel, quand on parle des discours et des actes, la question du parcours résidentiel est un vrai enjeu. Comment on crée les conditions que les locataires du logement social puissent accéder ensuite au logement ? Quand vous avez des opérations qui sortent à 6-7 000 euros, c'est évidemment impossible. Le grand écart est insupportable. Donc tout l'enjeu pour nous politiques, c'est de se doter des outils qui nous permettent de dire, on ramène tout le monde autour de la table pour avoir des prix de sortie qui permettent aux locataires, notamment de nos offices, de pouvoir accéder à la propriété.
Et de remplacer des mesures incitatives par des mesures coercitives, comme dans le texte de l'opération de renouvellement de Montreuil.
Tout à fait.
Il y a vraiment trois axes. En fait, il y a vraiment moi, je trouve quand même la mixité sociale qui me paraît quand même intéressante dans le vivre ensemble. Et puis aussi parce que dans les projets de groupe, en tout cas dans les coopératives d'habitants, on a vu des situations, des familles à situation à capital économique plus important permettre à d'autres qui ont des capitaux économiques moins importants accéder à un logement auquel ils n'auraient pas pu accéder. Ils ont accepté de mettre leur fonds en commun. Mais il y a aussi la mixité programmatique dans la ville, où il y a donc le logement, le développement économique. Il faut quand même penser à avoir des petites industries et de l'activité et de l'emploi. Et ça, c'est ce qui permet vraiment de faire une cohésion de ville et de vivre ensemble, en fait. Enfin, nous, c'est ce qu'on porte, en tout cas, socialement.
Jamal Layan, vous vouliez réagir ?
Oui, juste sur plusieurs remarques. Encore une fois, moi, le point de départ d'Ivry-Saint-Ouen, c'est pas de considérer que la ville se substitue aux promoteurs pour nous défendre, mais c'est la ville qui se substitue aux promoteurs pour faire la même chose, mais du côté ville. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passe à Montreuil, mais vu le discours, j'ai aucun mal à imaginer qu'il se passe à Montreuil exactement la même chose qu'à Ivry. Comment ils font pour maîtriser les prix de sortie ? Ben, tout simplement en se comportant comme une centrale d'achat, puisqu'une centrale d'achat aussi, elle maîtrise ses prix de sortie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui a décrété que le logement social, c'est l'alpha et l'oméga de la non-évacuation des milieux populaires. Moi, je suis désolé, dans l'association, on est pratiquement tous des propriétaires parce qu'on est les premiers à subir les impacts négatifs. Ceux qui nous parlent, ils sont en logement social. Les élus sont en logement social. Alors, je conteste pas qu'eux aussi, quelque part, ils font partie du milieu populaire. Mais si, en premier lieu, c'est quand même dans les gens qui sont impactés qui représentent le plus le milieu populaire. Après, juste quand même un dernier point sur la coopérative d'habitants, parce que moi, je trouve que c'est encore une belle illustration de ce qui est interprété par les gens quand on entend ça. Et la réalité, la coopérative d'habitants, c'est qui ? À Ivry-sur-Seine ? Dans cette coopérative, il y a qui ? Un ancien conseiller municipal, une personne qui travaille à la ville, une conseillère départementale qui présente aux élections. Moi, je veux bien que ce soit les habitants, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait très peu de chances que dans cette coopérative, il y ait des gens d'Ivry-Saint-Ouen. Est-ce qu'il y en a qui travaillent à l'IDEL ? Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un discours qui est super beau, mais une réalité qui est super différente.
Et alors, dans ce cas, Jamal Layan, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces projets de réhabilitation soient vraiment et jusqu'au bout à l'écoute des habitants des quartiers concernés ?
Encore une fois, il y a un point de départ, c'est que soit on part du principe qu'ils n'arrêtent pas de se tromper et qu'ils se trompent, quoi, en fait. Soit ils sont complices. Moi, je vous dis, les élus, dans leur politique de la ville, ils ont une complicité parce que quelque part, et alors c'est aux experts d'étudier ça, il doit y avoir un intérêt convergent. Il y a je veux dire, dans le projet Ivry Confluence, alors il y a 8000 logements qui sont construits, 5600 logements, alors moitié logements sociaux, moitié accession. Moi, je voudrais bien sur les chiffres, il y a 5000 demandeurs de logement à Ivry. Combien dans ces demandeurs de logement, concrètement, vont accéder à ces logements sociaux ? Voilà. Comme ça, on saura si c'est fait pour du logement social ou pour de la densification ou la façade du logement social est un prétexte pour autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut dire, le beau discours, il est quelque part vrai, mais quand on le quantifie, c'est un tour de magie.
C'est-à-dire, quand on est bon élève, on se fait houspiller.
Bah, Ivry, ils sont pas bon élèves. On existe. Si ils étaient bon élèves, on n'existerait pas.
Sociaux, c'est ça.
Mais écoutez,
moi,
ce que je peux vous dire,
c'est un fait. 38% de logement
social. Oui, mais le maire est en logement social. Le maire est en logement social. Et moi, je connais.
Avant d'être maire, il a été citoyen.
Oui, mais je veux dire, je connais des gens au chômage qui sont pas en logement social et qui n'ont pas les moyens même d'être propriétaires. Voilà.
Agnès Pauline, pour conclure.
Oui, voilà, je voulais juste quand même sur la coopérative d'habitants, comme j'ai été attrapée personnellement. J'espère que quand on est élu dans une vie, un élu qui fait un mandat, on lui interdit pas après d'accéder à du logement sur son propre territoire. Et les personnes qui sont dans la coopérative, il y en a qui viennent du parc social, il y en a qui viennent du privé, et vous pouvez aller les rencontrer. Ils sont ouverts à toute discussion.
L'élu, il est venu voir la ville pour demander un rabais sur le foncier. C'est problématique, ça.
Et on va devoir malheureusement s'arrêter là. Les banlieues, nouveau terrain ou dernier rempart à la gentrification, c'est la question à laquelle nous n'avons toujours pas fini de répondre. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir été en plateau avec nous, Gaylord de Shaker, Agnès Pauline, Jamal Layan et Sylvie Tissot. Vous pouvez retrouver des articles et des éléments de bibliographie sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Vous pouvez surtout réécouter, podcaster cette émission et nous laisser vos commentaires. Ça, c'est aussi possible sur Twitter. Très bonne soirée à tous et à demain.